simplement parce que le thème d'aujourd'hui, ça va pas être un long message, mais j'avais envie de parler autour de faire ce qui lui plaît, faire ce qui plaît à Dieu. Et comment sait-on que l'on fait ce qui plaît à Dieu ? Bien, une des choses qu'on peut faire, c'est lui demander. On peut lui demander. Est-ce que ce qu'on fait pour lui, est-ce que ce qu'on fait de nos vies, ça lui plaît ? Alors, Daniel a commencé l'introduction par faire le bilan, mais c'est vrai que c'est classique en fin d'année de faire le bilan de ce qui s'est passé. Mais ce matin, je veux rappeler l'importance de laisser Dieu avoir un regard sur notre vie au quotidien. Au quotidien. Alors, bien sûr, nous en sommes tous convaincus, sinon on ne serait pas là ce matin. Mais c'est bien d'enfoncer le clou et de s'encourager encore et encore à cela. On peut prendre le psaume 143, verset 10. Ce temps de chercher dans les Bibles. Je vais le lire deux fois. Il est dit « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. » D'accord ?« Enseigne-moi à faire ce qu'il te plaît. » Pourquoi ?« Car tu es mon Dieu. » Alors en général, tous les chrétiens sont d'accord avec le principe que c'est Jésus qui dirigent leur vie. En général, on ne s'oppose pas à ce principe-là. Mais qu'en est-il réellement ? Au quotidien, jour après jour. Ouvrons le livre de la Genèse. Alors, on ne va pas forcément lire les versets, mais on va parler de la Genèse. Genèse 1. Ça commence par quoi ? La Bible commence par un récit de Dieu et Dieu au travail. Il crée la lumière, il crée les océans, il crée le ciel, il crée la terre, la végétation, les animaux, et il finit par la plus belle création, ma femme, nous. Les deux. En regardant ce texte, on peut voir à plusieurs reprises que Dieu fait comme des pauses. Au verset 12, 18, 31, il est dit « Et Dieu vit que cela était bon. » C'est comme si Dieu s'arrêtait, regardait, et Dieu vit que cela était bon. Et au verset 31, il finit par dire « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. » Très bon. Vous ne trouvez pas que c'est un peu curieux ? Je pense qu'on peut trouver ces versets un peu étranges. Dieu est toujours parfait. Ce qu'il fait est toujours bon. Pourquoi s'arrête-t-il alors pour constater et donner un avis ? Est-ce qu'il doute ? Non. Le mot utilisé en Genèse 1 pour désigner Dieu, c'est Elohim. Et en fait, c'est un nom de Dieu au pluriel. On pourrait le traduire par les dieux. Et en fait, c'est les trois personnes de Dieu qui révèlent Dieu, qui sont présentes à ce moment-là. Et moi, j'y vois comme une discussion entre le Père, le Fils et l'Esprit, qui constatent et mettent un avis sur ce qu'ils ont fait. Ils montrent par là un exemple d'humilité, de soumission, interaction les uns avec les autres et d'unité. Ensemble, ils acquiescent et ils disent « c'est bon ce que l'on a fait ». Alors à combien plus forte raison, pour nous les humains, il est important d'observer et de discuter de ce que nous faisons dans nos vies, de nos vies, et de demander au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses de ma vie ? Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais jour après jour ? La Genèse, c'est aussi le commencement de la création. Et Dieu a jugé bon de regarder si c'était bon dès le début. Pour nous aussi, c'est une nouvelle année qui démarre. Et pour 2018, allons-nous vivre 2018 comme 2017? Est-ce que nous pouvons faire exactement les mêmes choses? Parce que, au regard de Dieu, tout ce qu'on a fait était bon. Allons-nous faire évoluer certaines choses? Parce que peut-être il y a des choses où c'était pas top. Et je voudrais inviter chacun, chacune à s'assurer de cela pour cette nouvelle année. Que Dieu dise « Cela était bon ». Qu'il puisse dire, notre parole de Jésus, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Parce que quand on fait ce qui est bon, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, on entre dans la joie de notre Dieu. Alors on peut regarder un petit peu à Jésus. C'est bien de regarder à Jésus. Jean 8, verset 29, pour ceux qui veulent le prendre. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est Jésus qui parle, donc il parle de son Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi ? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh ! Ça, c'est le standard. C'est lui, c'est Jésus. Je fais, et il peut le dire, lui, je fais toujours ce qui lui est agréable. On peut prendre aussi dans Jean 5, au verset 19, c'est un verset qu'on connaît bien. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Jésus était connu, je crois, pour être quelqu'un qui passe beaucoup de temps en relation avec Dieu. Vous êtes d'accord avec cela? Je pense qu'on peut l'affirmer. Il n'agissait qu'en résultat, le texte nous dit, de ce que le Père lui avait montré. Waouh! Encore une fois, le standard de l'homme parfait. Il n'agissait qu'après avoir vu ce que le Père lui montrait. Il est clair qu'il faisait régulièrement le point avec le Père et le Saint-Esprit. Probablement, le mot est faible, tous les jours. Et probablement plusieurs fois par jour. Combien de textes on peut lire où il délaisse la foule parce que sa priorité, c'est « Ah, attendez, moi, il faut d'abord que j'aille consulter mon Père. Il faut d'abord que j'aille discuter avec le Saint-Esprit. » Jésus pourtant connaissait sa mission et son appel. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu, sans tâche, qui allait être offert en sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais il s'assurait à chaque étape, à chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, il s'assurait qu'elle soit conforme avec l'approbation du Père. Et alors, dans Jean 11, 42, on a cette proclamation de Jésus qui est magnifique, Jean 11, 42. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Waouh. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et c'est logique, non? C'est une parole qui, pour nous, est extraordinaire. Mais vu la vie et le style de vie de Jésus, c'est logique. Jésus anticipait tout ce qu'il faisait. Et avant de faire quoi que ce soit, il demandait l'approbation du Père. c'était Jésus. Pour ma part, dans beaucoup de choses que je fais, je dois l'avouer, je demande l'approbation de Dieu après coup. Alors je sais que d'une manière générale, vous ressemblez plus à Jésus que moi, mais je me confesse publiquement au cas où certains seraient dans mon cas. J'agis parce qu'il faut agir et après coup, je vais voir Dieu et puis je lui dis « bon, c'était pas trop mal ». La nature humaine nous attire toujours, toujours vers l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on le réalise ça ? Notre nature, profondeur de qui nous sommes, va toujours nous attirer vers l'indépendance. Je n'ai pas besoin de Dieu pour faire. La vie dans la chair nous déconnecte tout le temps de la vie spirituelle. Et c'est pour cela que nous avons besoin régulièrement de revenir auprès du Père, auprès du Fils, auprès du Saint-Esprit, pour nous rendre vulnérables. Et le laisser voir, Dieu vit que c'était bon. Et on doit constamment venir vers Dieu et le laisser voir. Comme si on pouvait le cacher. Bien sûr, on ne cache rien à Dieu. Mais notre attitude de cœur peut faire que parfois, je cache. Et je pense que je peux cacher, mais je ne peux pas cacher à Dieu. Mais mon attitude de cœur doit être, Seigneur, viens voir. Viens voir ce que je fais. Une des manières dont Dieu s'y prend pour nous rappeler à l'ordre, parce qu'on a besoin parfois d'être rappelé à l'ordre, non ? Pensez ? Pas vous ? Bon, moi j'ai besoin d'être rappelé à l'ordre. Parce que je m'en vais trop souvent du côté de l'indépendance. Et une des manières dont Dieu s'y prend, c'est de l'incruster dans les 10 commandements. C'est lequel des 10 commandements qui nous rappelle à l'ordre par rapport à cela ? Passer du temps avec Dieu. C'est le sabbat. Le sabbat. Et c'est dans les 10 commandements. Ça peut être surprenant que Dieu le mette au même niveau que tu ne tueras point. Repose-toi. Non, ça vous a jamais choqué ? Moi, j'aurais été Dieu, peut-être je l'aurais pas mis là. Merci Seigneur, je ne suis pas Dieu. Donc lui, il l'a mis là, dans les 10 commandements. Waouh ! Arrête-toi. Et viens. Viens vers moi. Arrête d'être indépendant et viens. Tu es dépendant de moi. On va lire Exode 20, si vous voulez l'ouvrir. Verset 8. Exode 20, à partir du verset 8. Souviens-toi, s'adresse à Israël, du jour du repos pour le sanctifier. Déjà, on ne peut pas dire qu'on soit loin dans le peuple, dans l'histoire du peuple, et Dieu dit, souviens-toi. C'est comme s'il avait déjà oublié. Ça vous parle ? Moi, ça me parle. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça veut dire quoi ? Le mettre à part. Celui-là, ce jour-là, tu me le mets de côté. Il n'a pas dit s'il te plaît. C'est un commandement. C'est un commandement. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, il précise, au cas où on n'a pas bien compris, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ça c'est pour ceux qui ont des entreprises, ni tes employés, ni ton bétail, si tu as un chien, faut aussi qu'il observe le sabbat. Ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. D'accord ? Il est l'exemple. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'Éternel l'a béni ce jour-là. Il l'a mis à part et il l'a béni. J'insiste un peu ce matin parce qu'on vit dans une société qui tend malheureusement à nous faire vivre autre chose. Mais si je veux vivre un jour béni, je dois observer le sabbat. Dieu a mis ce jour à part pour les hommes et les femmes, et il l'a béni. C'est donc un jour où j'arrête tout et je me joins à ma communauté. Je fais le point avec mon Dieu. Dans notre monde, dans notre société française, il est facile de vivre jour après jour, semaine après semaine, sans consulter Dieu. Après tout, nous sommes débordés, nous avons un agenda over-rempli, nous sommes épuisés. Alors il est très facile de trouver plein d'excuses pour zapper, pour passer ce temps que je dois à Dieu, à moi-même et à la communauté. Et puis, en plus, nous pouvons écouter un peu de louange dans la voiture. C'est bien ça. Un petit message sur Internet et au final, penser que notre devoir d'église est fait et que Dieu approuve cette façon de vivre indépendante de lui et de la communauté. Je veux juste nous rappeler ce matin que ce n'est pas ce que Dieu commande. Dieu est d'accord en semaine, parfois, avec les fast-food, mais il n'aime pas le fast-food le dimanche. Il n'est pas pour McDo, KFC. Je suis désolé pour ceux qui vont là le dimanche. Pourquoi le dimanche ? Parce que c'est notre jour. Dans la société où l'on vit, c'est notre jour de sabbat, le dimanche. Tu prends à emporter ta louange, ton message, et puis tu ne t'arrêtes pas. Tu ne fais pas d'effort pour te rassembler, t'arrêter avec l'Église, pour l'écouter. Dieu invite le jour du sabbat à un repas gastronomique. McDo, les autres jours, le dimanche, on va au resto. On prend le temps de communier avec l'Église, de communier avec lui, de communier avec les frères et sœurs pour rechercher son conseil. Le travail, la famille, les courses, le sport, les loisirs, la télé, les lectures, les repas entre amis, etc. etc. Et Dieu dit, arrête. Stop. Au moins une fois par semaine. Viens à moi. Viens m'exposer ce que tu as fait dans cette semaine-là. Viens entendre si c'est bon ou pas. Si je vais dire, bon et fidèle serviteur, continue. Ou arrête et change. Change quelque chose. C'est presque fini. Juste pour ôter encore quelques doutes, Nicolas nous avait rappelé ces versets lors d'une étude, par rapport au sabbat. Et je trouve que notre société tend de plus en plus à enlever ce jour important et ce moment que l'on prend où Dieu on s'arrête et on le consacre à Dieu et Dieu met son regard. On a les lois qui vont de plus en plus vers instaurer le travail tous les jours, même le dimanche. Et vu les trains de vie que l'on a, c'est très important de mettre à part un jour, et le dimanche, pas un autre jour, pas le mardi, parce que si je mets à part le mardi, je ne vais pas me rassembler avec ma communauté. Je mets à part le jour où je peux me rassembler. Bien sûr, d'accord ? Bien sûr, il y a toujours des exceptions, il y a des métiers, notamment dans le médical, où parfois c'est compliqué, mais mon attitude de cœur, elle est là. Elle est, oui Seigneur, je mets à part un jour entier pas la moitié, pas 6 heures, pas 3 heures. Un jour, Dieu te demande un jour complet pour lui. Et donc dans Exode 31, on va lire du verset 14 au verset 16. Vous observerez le sabbat. Tu t'arrêteras le dimanche. Car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Waouh ! Encore une fois, Dieu le met au même rang que tu ne tueras point. Waouh ! Ça ne vous choque pas ? Moi, ça m'a choqué. Ça me choque. Et j'aime me laisser choquer par la Bible. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Seigneur, attends, je n'ai pas tout compris. Je vais m'asseoir, tu vas m'expliquer. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Qui a créé les jours de la semaine ? C'est toi ? C'est moi ? C'est lui. Et lui dit, ce jour-là, il est à moi. Il est consacré pour que je te rappelle que tu es dépendant de moi. Et tu en as besoin au moins une fois par semaine. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Tu en as besoin au moins une fois par semaine. C'est le minimum. Et encore une fois, il est répété, celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, comment ? En le célébrant. En le célébrant. Eux, leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Je dois venir célébrer, faire la fête, c'est ça que ça veut dire. Je m'arrête pour faire la fête avec Dieu. Et alors que je fais la fête avec lui, il regarde et il me dit, c'est bon ou c'est pas bon. C'est un jour de fête. Ah, attention, on va décoller. Satan, au travers du péché, a fait croire à l'humanité qu'elle pouvait être indépendante vis-à-vis de Dieu. C'est ça le gros mensonge. Cela l'a conduit tout droit vers la mort. Tuons. Wow. Tuons notre indépendance avant que ce soit elle qui nous tue. C'est un peu dur, mais je crois que c'est une réalité. Tuons notre indépendance avant que ce soit elle qui nous tue. En Christ, nous avons le pouvoir de redevenir pleinement dépendants de Dieu. Waouh. En Christ, nous avons le pouvoir de redevenir pleinement dépendants de Dieu. On va finir par Jérémie 10, 23. Et je vais réinviter l'équipe de louange à venir, s'il vous plaît. Jérémie 10, 23. C'est out. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Amen. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Waouh ! Quelle leçon, Seigneur. Jérémie, il avait compris là quelque chose. Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Jésus va le dire différemment. Il va dire, sais-tu que ce soir, même, ton âme peut être demandée? C'est pareil. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est à qui ? Bien sûr, c'est à Dieu à diriger mes pas. J'ai besoin que Dieu dirige ma vie. Et ça ne se produira pas si je ne prends pas ce temps que je lui consacre. Ça n'arrivera pas. J'aimerais vous inviter à vous lever, on va prier, et puis après on va passer encore un petit moment à baigner dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, je t'invite maintenant à remplir nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité, Seigneur. C'est toi qui nous révèles ce qui est important, ce qui plaît à Dieu. Et on veut te dire ce matin, encore, que nous voulons plaire au Père. Le désir de notre cœur, en tant que communauté, et chacun de nous, nous voulons te plaire. Nous voulons faire ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, lis nos cœurs maintenant et vois que nous sommes sincères. Nous voulons faire ce qui t'est agréable ensemble. Notre communauté n'a pas lieu d'exister si nous ne faisons pas ce qui t'est agréable. Seigneur, nous voulons nous rendre vulnérables ensemble face à toi. Nous ne voulons pas avoir un cou raide, Seigneur. Merci pour l'exemple d'Israël. Et aujourd'hui, nous pouvons agir différemment. Pas en les jugeant, mais en comprenant la leçon, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul inspire les œuvres qui sont bonnes. Seigneur, on veut te demander pardon ensemble en tant que communauté pour tout ce qu'on a raté en 2017, Seigneur. Pardon pour tout ce qu'on a fait qui ne t'a pas glorifié, qui ne t'a pas honoré, dans lesquels tu ne t'es pas réjoui. Je te demande pardon en tant qu'ancien Seigneur de cette communauté. Pour ce que chacun a raté, Seigneur. Dire que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et nous savons que tu nous pardonnes. Parce que tu es fidèle et juste. Parce que en Jésus-Christ, tu nous as dit oui. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas puissants. Nous ne sommes pas assez intelligents pour faire ce qui t'est agréable. Alors viens à notre secours. Et pendant ce chant, j'aimerais que chacun laisse le Seigneur lui parler sur tout ce qui a été bon cette année. Il y a plein de choses que tu as fait qui étaient bonnes, qui étaient bonnes, que Dieu a appréciées, où Dieu s'est régalé en te voyant faire. There is many things that you did this year that makes God happy, and I would like you to think to that now. Prendre un chant pour ça.